Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, on en était au vivant. Vous êtes toujours bien vivant, ça va? Personne s'est endormi?
Ça bouge.
C'est bien. Alors, être un sacrifice vivant, c'est donner que ce qui est vivant en nous. Et c'est étonnant que parfois la vie est justement quelque chose qui manque ou qui est attaqué dans l'Église. Tout ce qui est vivant cherche à être enlevé. Hein? Dieu veut la vie, Satan veut la mort. C'est tout ça. On le voit très bien aujourd'hui. Donc, travaillez à la vie et donnez-vous vivant. Dieu veut servir des vivants, pas des morts. Psaume 101, verset 17, ce ne sont pas les morts qui servent l'éternel, mais les vivants. Pendant des années dans l'église, on s'est réjoui d'aller louer Dieu au ciel. Quand je connais les chrétiens, pendant 30 ans, toute leur vie, ils ont prié, « Oh, ça sera bien quand on sera vers par les yeux pour te louer. » Mais pour le moment, vous n'y êtes pas. Il ne faut pas vivre dans le rêve de ce qu'il y aura dans 30 ans. C'est bien, c'est réjouir d'aller au ciel. Mais tu peux déjà louer ici, non? Tu peux déjà louer ici, et déjà crier ici, et déjà chanter ici, et déjà bouger et montrer ta vie sur cette terre. Donc, s'offrir à Dieu. Psaume 115, verset 17. Puis aussi dans le psaume 135, il y a ce même verset. Qui est dans une autre verset. Il y a psaume 135 et psaume 115. Donc, je vous cite juste les paroles d'un chant que j'ai écrit, qui est tout à fait dans cet esprit-là, qui est inspiré par ce message, par ces textes, par l'exemple de Marie, par l'exemple de beaucoup d'autres. Je n'ai pas réussi à mettre la musique dans PowerPoint, je pense qu'une fois j'y arriverai.
Il faut
chanter. On va la chanter alors. Non, mais vous le connaissez, je pense. Si j'avais un piano, je la chanterais. Sans piano, on peut chanter aussi, c'est vrai.
Il n'y a pas de limite à la
louange. Exactement. Alors chantez-le avec moi.
Reçois la vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours.
Amen.
Amen. C'est bon, donc je continue parce que c'est pas terminé. Donc, plus que le sacrifice, c'est l'obéissance. Parfois, on se cache derrière le sacrifice et on pense que ça suffit pour Dieu. Mais un vrai sacrifice demande toujours l'obéissance. Le sacrifice n'est pas un substitut à l'obéissance. L'adoration n'est pas un acte religieux. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, qui est dans la période pleine des sacrifices, voilà ce que Dieu dit au travers de 1 Samuel 15:22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parfois, on pense qu'on va réussir à obtenir la faveur de Dieu en faisant un sacrifice. Mais ce que Dieu attend, c'est l'obéissance. Plus que tout sacrifice. Et en même temps, on a vu que le sacrifice était important, mais parfois le sacrifice, c'est simplement faire quelque chose. Obéir, agir. C'est pas juste aller au temple, faire notre réunion, faire nos prières, faire ce qu'on pense être juste. La vraie obéissance, c'est de s'offrir en sacrifice vivant. Tant que vivant, offre-toi à Dieu avec ta vie. Nous sommes les sacrifices ou des sacrifices, donc des sacrificateurs, donc des adorateurs. C'est des mots qui vont vraiment ensemble et qu'on ne doit pas séparer. On ne peut pas séparer ça. Nous sommes les sacrifices, les sacrificateurs et les adorateurs. Et ça, vous le savez très bien, c'est très bien écrit dans le Nouveau Testament. On va avoir deux références qui nous le disent. Attends juste pour finir. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Va venir à la terre. Voilà. C'est bien qu'on puisse revenir en arrière à certaines fois.
Merci. Ah non, pas merci.
Merci.
Donc, nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse 5, 10. Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Donc, nous sommes tous sacrificateurs. Tout ce qu'on a vu sur les Lévites ce matin, maintenant, on est tous ces Lévites. On est tous appelés à offrir des sacrifices dans le temple, à offrir, à construire le temple de Dieu. Bien sûr, tout ça spirituellement, vous êtes d'accord? À offrir nos chants, nos louanges, nos prières, à servir dans le temple, à servir dans la présence de Dieu, à nous tenir devant Dieu, à nous attendre à la manifestation de sa gloire, et puis ben, là, comme il est écrit, à régner avec lui, régneront sur la terre, sacrificateurs. Et puis 1 Pierre 2:9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Waouh, Dieu nous donne des belles déclarations là, non? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est notre ministère aujourd'hui. Il y a tellement de chrétiens qui sont dans l'église et qui disent « Mais moi, j'ai pas de ministère. Je sais pas quoi faire pour Dieu. Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Je suis un pauvre chrétien. J'ai pas de don. J'ai pas de capacité. » Vous avez tous, sans exception, reçu ce ministère d'être des sacrificateurs. Alors, il n'y a plus d'excuses. Plus d'excuses, sacrifice vivant, des sacrificateurs vivants pour lui, et Dieu reçoit cela de votre part. Donc vous offrez des sacrifices, des prières, des louanges, de l'intercession, des parfums, des offrandes. Dieu le veut. Personne ne peut s'exclure de ce ministère, disant c'est pas pour moi, etc. Vous êtes tous des sacrificateurs. Donc c'est un ministère des chrétiens du Nouveau Testament. beaucoup trop de chrétiens du Nouveau Testament dans nos églises aujourd'hui évangéliques fonctionnent encore comme dans l'Ancien Testament. Ils pensent que le ministère est réservé à certaines personnes, ils vont s'adresser au ministère au lieu d'aller s'adresser à Dieu. Ah, je vais aller voir le pasteur, je vais aller prier avec cet ancien, tel et tel va demander à Dieu pour moi, et puis je vais voir ce que Dieu dit. C'est bien d'avoir des frères, c'est bien d'avoir du conseil, c'est bien d'avoir des prophètes, c'est bien d'avoir beaucoup de choses autour de nous. Mais nous avons tous le privilège, l'invitation, l'autorisation, la demande et le fait d'obéir à cela, d'aller nous-mêmes dans la présence de Dieu. Le voile était déchiré pour tous les chrétiens. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous pouvons tous aller dans ce lieu très saint. Nous pouvons tous aller dans l'adoration. Nous pouvons tous obéir à Dieu. Chacun avec ses dons, ses capacités. Et Dieu l'attend de notre part. Vous avez ce ministère. Donc, qu'est-ce que c'est un sacrificateur de la Nouvelle Alliance? Tout simplement, savoir ces choses. Nous ne pourrons jamais repayer le prix que Dieu a payé. Ça, c'est bien de savoir. Ça va éviter de faire de la religion et de faire du religieux. Parce que le religieux veut tout payer. Hein? Veut faire des œuvres. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est donner en retour ce que l'on a reçu. Si vous chantez pour Dieu, c'est que Dieu vous a donné une voix. Si vous servez, si vous prêchez, si vous faites n'importe quoi, c'est des choses que Dieu vous a données. L'exemple qu'on a vu de David ce matin. David, le grand roi, qui a pu régner sur ce peuple d'Israël, qui a pu construire le temple, il sait très bien que tout ce qu'il a reçu vient de Dieu. Et il donne ce qu'il a reçu en retour. Il n'y a pas de sacrifice, un substitut qui remplace à notre place. Le seul sacrifice, c'est un sacrifice de vie en action pour lui. Donc une vie qui bouge, quoi, qui évolue. Et si on prend le rapport avec la louange et l'adoration, c'est juste la pointe de l'iceberg, la louange et l'adoration. C'est les reflets de la vie offerte en sacrifice pour Jésus. La louange, ce n'est pas le sommet ultime de l'expérience chrétienne. D'accord? C'est juste le reflet de ce qu'on vit avec Dieu. Et parce qu'on aime Dieu, parce qu'on le sert, parce qu'on s'offre à lui, eh bien, on le loue, on l'adore. Quand on se retrouve, c'est normal de louer Dieu. C'est même pas, il n'y a pas de question à se poser. Les chrétiens, ils arrivent dans la réunion, est-ce que je vais louer aujourd'hui? Je me demande. Et c'est même pas une question à se poser, quoi. C'est une chose à faire et à vivre qui reflète ce que tu vis avec lui d'une manière générale et globale. Parce que tu l'as accepté, parce que tu as décidé de le suivre, parce que tu veux être fidèle, parce que tu veux marcher dans ses voies. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, je termine. C'était la dernière diapo de ce message. Sacrifice, sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Alors on est parti de très loin, on est parti de la Genèse, on est parti d'Abraham, d'Isaac, pour arriver dans ce sacrifice-là. Je crois qu'il ne faut jamais oublier une notion ou l'autre. Si Dieu a utilisé ces termes-là, ces mots-là, en rapport avec la louange, c'est qu'il fallait comprendre ce qu'était vraiment la valeur du sacrifice, le prix du sacrifice, la réalité du sacrifice, puis en même temps, pas transformer ce sacrifice en acte religieux, mais garder ça comme un sacrifice vivant. Alors avant que je passe à autre chose, je sais pas s'il y a des questions. Encore sur une chose que j'aurais dit dans ce message, Estelle. J'ai eu plusieurs questions qui sont sorties toutes seules, donc c'est bien. Alors je vais revenir maintenant à quelque chose de très pratique. J'ai le terme dans des choses plus poussées, plus profondes, des choses plus simples, plus légères, pour que. Laissez un peu le temps de souffler, d'inspirer. Je vais présenter juste certains obstacles à la louange. Je sais que ça va amener peut-être certaines questions, des discussions. Donc, les obstacles à la louange. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est difficile de louer Dieu? Quels sont les obstacles? Premier obstacle, c'est comprendre que la louange est un choix. Les gens pensent que la louange est une émotion, un sentiment. Dans l'église, n'est-ce pas? s'attendent à ce que le nuage de la louange leur tombe dessus, et que tout à coup, au cinquième chant, ils sentent des la chair de poule, des poils qui se dressent sur les bras. C'est bon de louer Dieu. C'est un choix, tout simplement, comme je l'ai dit. On ne se pose même pas la question. Si on vient au culte, on est là pour louer Dieu. Donc si on se pose la question, on a déjà un problème. Encouragez les gens, expliquez-leur que c'est un choix. Prenez des psaumes, prenez des textes bibliques, regardez David. Je louerai l'Éternel, je bénirai l'Éternel, j'exalterai son nom. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, tant que je respire. C'est un choix. Faites le choix ce matin de louer Dieu. Faites le choix de l'adorer. Et ça va aider. Ça va être un obstacle de moi. Un obstacle, le style de musique. On en a parlé un tout petit peu. De toutes les époques, dans toutes les églises, dans tous les pays, ça a toujours été une grande question. Et ça le sera encore, ne vous inquiétez pas. Quand l'orgue est arrivé dans l'église au Moyen-Âge, les chrétiens ont crié au scandale. Ils ont fait des sauts, ils ont dit « Attention, c'est le diable qui entre dans l'église. » Maintenant, vous allez dire à des gens dans le monde « C'est quoi la musique d'église ?» Ils vont vous dire « C'est l'orgue. » Comme quoi, ça peut vite changer. Hein? Et pourtant, il y a des organistes que je connais qui ne jouent pas du tout de la musique chrétienne et qui vraiment ne sont pas convaincus de ce qu'ils font et qui ils aiment juste l'instrument et leur musique. Ils jouent des trucs anti-chrétiens au possible sur leur orgue dans leur église. Donc, ce n'est pas du tout ça. Le style de musique a changé et changera encore. Et va encore changer. Le problème qu'on a, c'est que parfois dans l'église, on dit « Moi j'aime, donc Dieu aime, donc c'est pour Dieu. » Moi, j'aime pas, donc Dieu aime pas, donc c'est pas Dieu. Ça, c'est, je résume, mais c'est souvent ça. On pense que nos goûts sont les goûts de Dieu. Mais c'est comme si on disait, moi j'aime le rose, mais Dieu, il doit pas. Dieu, donc Dieu aime le rose. Mais j'aime pas le noir, donc Dieu aime pas le noir. Mais Dieu a créé toutes les couleurs, n'est-ce pas? Donc, de la même manière, tous les styles de musique, les possibilités de bien qui ont été un peu organisées par les hommes mis en place, ils peuvent être utilisés pour Dieu. Maintenant, la grande différence, c'est qui est-ce qui joue cette musique et qu'est-ce que la personne veut avec cette musique. Parce que avec la musique, tu peux faire deux choses. Soit tu la prends, tu la donnes à Dieu, soit tu la prends, tu la gardes pour toi, pour devenir beau, célèbre, riche, et le meilleur, et le plus beau, et le plus fort. Tu la prends pour qu'on se prosterne devant toi. Regardez comment font les chanteurs, les artistes, les vedettes, les foules courent, ils viennent devant la scène, ils lèvent les mains vers eux, ils veulent les toucher, et puis... ils adorent ces gens-là. C'est pas pour rien qu'on appelle ces chanteurs les idoles aujourd'hui. Hein? Donc la musique en soi, elle n'a pas une âme, un esprit dans la musique, mais c'est la personne qui fait la musique qui a une âme, qui a un esprit. Et moi, il y a une musique, je sens très bien l'âme de la personne, je ne peux pas l'écouter, même si techniquement ou émotionnellement elle pourrait être intéressante. Je sens trop l'âme, l'esprit, le désespoir de la personne. Ça ne peut pas m'inspirer. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme esprit derrière cette musique? Plutôt que le style lui-même, à proprement parler. Et ensuite, qu'est-ce que je veux faire avec cette musique? Est-ce que je peux donner gloire à Dieu? Est-ce que je l'utilise pour ça? Et c'est ça qui va aider mon choix et peut-être aider à aller plus loin. Donc, il faut qu'on dépasse ce stade, pas que ce soit un obstacle à la louange. Qu'on utilise la louange, la musique comme un tremplin pour favoriser la louange. Quelle question?
C'est comme les fêtes, etc.
Je pense simplement qu'un musicien chrétien, il peut être tout à fait musicien dans le monde. Moi, j'en connais des musiciens chrétiens qui ne font pas que de la louange, mais dont leur vie est consacrée à Dieu. Je crois que c'est après, ils vont communiquer leur esprit. Prends un exemple, Abraham Laboriel, qui est un très bon musicien de jazz, bassiste, très connu, qui a joué sur plus de 4000 albums. Il est très connu dans le monde comme un des meilleurs bassistes. Mais il est aussi connu comme un chrétien, parce qu'il ne fait aucun compromis. Donc il ne joue pas que des chants de louange, il joue du jazz, il joue de la musique technique, il joue de la musique rock, il joue avec différents musiciens. Mais c'est un témoignage parce que c'est un chrétien consacré. Avant les concerts, il prie. Quand il fait les tournées avec les musiciens, il garde une vie chrétienne saine et pure. Il ne se compromet pas avec eux. Il ne va pas faire n'importe quoi. Puis il choisit, il ne va pas jouer non plus avec n'importe quel groupe qui est complètement dans le culte ou dans des choses... mauvaise de ce monde, quoi. Donc c'est là, je pense, le choix du musicien qui va déterminer. Mais c'est son métier. Donc, comme un avocat chrétien, est-ce qu'il va faire que des discussions chrétiennes? Un professeur chrétien, est-ce qu'il va enseigner que sur la Bible? Non, il va enseigner les mathématiques, la géographie, l'histoire. Donc, on revient toujours à ce débat-là. Il y a des choses qui sont chrétiennes, il y a des autres choses qui ne sont pas à proprement dire chrétiennes, mais on amène notre christianisme dans ces choses-là. Notre attitude, nos paroles, etc. Donc, je crois que c'est possible d'être musicien chrétien, sans faire que d'amour, mais avoir une vie d'adoration, une vie consacrée à Dieu. Et je donne un exemple à Abraham Laboriel, même quand il fait des concerts de jazz comme ça, tu vois, même s'il ne peut pas le dire directement, mais il donne gloire à Dieu. Puis quelqu'un qui aime sa musique va acheter un CD, sur ses disques c'est marqué qu'il sert Dieu, et depuis dans l'aiguille, la gloire va venir à Dieu. Et beaucoup de musiciens non chrétiens sont convertis au travers de son témoignage dans ce milieu-là. Je prends exprès un bon exemple, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont un peu sur la limite, quoi. Et c'est nouveau là où on a un peu de problème. Il y a des gens qui disent chrétiens, qui veulent travailler dans le monde, qui veulent faire une mission dans le monde, qui au bout de 2-3 ans, ils sont récupérés par le monde. Et puis ils sont bouffés dans leur art, dans leur situation, puis finalement, ils ne voulaient pas vraiment la gloire de Dieu, ils voulaient aussi un petit peu de gloire pour eux. Et puis quand tu fais du compromis, bah, c'est dangereux. Parce qu'au moment, tu tombes d'un côté ou de l'autre. Alors soit tu arrêtes tout, parce que tu te rends compte que c'est trop dangereux pour toi, puis tu reviens, tu joues plus dans l'église parce qu'on appelle. Ou alors, tu vas vraiment là-dedans, mais tu vas à fond avec Jésus, avec des gens qui prient pour toi, avec un engagement sans compromis. Mais ce n'est pas facile. Et je crois qu'on a surtout besoin de prier pour ces gens-là, parce qu'ils sont dans une position délicate. Mais ceux qui ont un témoignage chrétien puissant, fort dans le cinéma, dans la musique, dans les arts, je crois qu'ils vont amener beaucoup de gens au Seigneur. Et c'est déjà le cas. Mais il faut vraiment trouver ces gens-là et les aider. Oui?
Oui, la société de protection qui est en bas la scène d'accord dans le temps de l'éloi et de débat, est-ce que les chrétiens doivent-ils écouter une musique non chrétienne, avoir les CD non chrétiennes que ce soit?
Une bonne question. Est-ce que les chrétiens écoutent une musique non chrétienne? Est-ce que vous en écoutez la musique non chrétienne? Moi, ça m'arrive aussi. Mais maintenant, je choisis vraiment ce que j'écoute. J'écoute plus la même chose que j'écoutais il y a maintenant arrière. J'écoute certaines musiques, mais je peux vous dire que je deviens de plus en plus difficile dans ce que j'écoute. Parce que je sens, comme je l'ai dit, l'esprit qu'il y a derrière cette musique. Certains chanteurs sont qui ont un esprit impur, d'autres un esprit occulte, d'autres un esprit de déprime, de découragement, de dépression. Je connais une chrétienne qui disait « Ah, moi, quand ça va mal, j'écoute Jacques Brel, ça me fait du bien. » Ben, c'était pas vraiment la bonne solution, parce que Jacques Brel, c'est un gars déprimé, découragé, qui amène encore plus cet esprit-là. Si t'es découragé, mets de la louange, et puis élève ton âme, et puis adore Jésus, tu vois. Donc c'est aussi le choix de ce qu'on écoute, à quel moment. Il y a des fois aussi, on est dans un supermarché, il y a de la musique, c'est pas que de la musique chrétienne. On met la radio, il y a de la musique, il n'y a pas que de la musique chrétienne. Et j'écoute des fois la radio, je dois vous dire, des fois je dois changer de poste. Parce que je sens que cette musique-là, elle n'est pas bonne. Donc c'est à nous de faire un choix. Nous sommes les maîtres de notre corps, de nos pensées, de notre vie, donc nous choisissons ce que nous écoutons. Et si quelque chose n'est pas bon pour nous, voilà. Mais ce qui est difficile, c'est de faire une loi. Parce que quelque chose, quand je connais des gens qui étaient non chrétiens, qui prenaient de la drogue ou qui partaient dans des trips pas possibles avec une certaine musique, moi je l'écoute, ça ne me fait absolument rien. Parce que je n'étais pas impliqué dans cette musique émotionnellement. Mais eux, ils ont idolâtré ce chanteur, ils l'ont aimé, ils ont écouté les disques pendant des jours, des années, des mois, ils se sont endormis avec cette musique, ils ont connu leur premier amour avec cette musique, donc émotionnellement ils sont tourmentés par cette musique. Ça leur ramène à tout ce monde-là. Donc ils ont besoin de se débarrasser de ça. Il y a des gens, ils doivent jeter le CD, le brûler, le détruire. Mais d'autres, tu ne peux pas dire toute l'église qui a CD, tu veux le jeter. Parce que ça n'aura aucun effet sur d'autres, parce qu'ils ne sont pas du tout influencés, ils ne se soumettent pas à cette musique-là. Alors bien sûr, on ne parle pas des musiques ouvertement sataniques, occultes, et toutes ces choses-là, ça c'est clair, ça c'est à enlever complètement, à détruire complètement. Mais il y a toute une musique qui est là un peu entre deux. Moi, en tant que professeur de musique, ça veut dire que quand j'étais enseignant, je ne pouvais pas chanter que de la musique chrétienne et de la louange à l'école. Je faisais des chansons culturelles, des chansons historiques, de la musique, je faisais écouter différents artistes, mais je faisais très attention à ce que j'écoutais. Et même que certains de mes professeurs m'enseignaient à faire écouter certains morceaux, je ne faisais pas certains morceaux parce que je savais très bien l'esprit qui était derrière ces compositeurs de ces morceaux-là. Par exemple, en musique classique, il y a aussi des gens très bien, il y a des gens très mauvais, quoi. Dans toutes les musiques, parce qu'au début, il y a des chrétiens qui disaient « ça c'est la musique chrétienne, c'est la musique classique, puis la musique rock, c'est pas chrétien. » Mais dans le rock, il y a du bon et du moins bon, dans le classique, il y a du bon et du moins bon. Adolf Hitler adorait la musique de Wagner, et Wagner, c'est un compositeur classique qui était à fond dans l'occultisme. qui fait des incantations démoniaques, qui invoque des démons. Et ben, il y a plein de musiciens qui jouent classique, qui aiment beaucoup Wagner, qui sont une musique très puissante avec son instrument, mais c'est très occulte. Voilà. C'est un exemple. Ben, dans le rock, dans la musique moderne, c'est la même chose. Oui.
Mais je crois un peu aujourd'hui aussi en tant que chrétien et musicien on a un défi parce que c'est quoi la musique chrétienne? Pour moi la musique chrétienne c'est pas des chants de louange qu'on chante le dimanche matin à l'église.
Eh bien
il y a un défi justement à composer des chants que des non-chrétiens vont entendre et vont se dire mais ils vont pas réagir mais c'est quoi cette secte, c'est quoi ces trucs, on est où là? Puis je pense qu'il y a tout un aspect aussi où on peut témoigner en chantant.
Voilà, tout à fait. Donc moi j'ai parlé par rapport à la louange, mais maintenant le débat il va déjà plus loin, c'est vrai. C'est normal, je savais très bien, parce que la musique, ça touche toute notre société, toute notre sphère. Mais dans la musique, il y a plusieurs manières d'utiliser la musique. Il y a la musique de louange, c'est une chose, il y a la musique d'évangélisation, il y a la musique simplement de divertissement, qui peut être saine, une bonne musique paisible, reposante, etc., et qui peut toucher le monde, une musique de film, une musique d'illustration. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Simplement, par rapport à la musique, je pense que ça peut être parfois un obstacle. On empêche d'utiliser une certaine musique pour toutes sortes de raisons culturelles, et puis ça nous empêche d'utiliser ce que Dieu veut pour sa gloire. Donc c'est là qu'il faut qu'on reste pour le moment, et après on va aller encore bien plus loin. Oui,
oui, je me demandais, est-ce qu'il y a des styles, par exemple le hard rock, qu'on aurait complètement banni au niveau de la louange, et puis est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il y a des styles, par exemple le country, le pop, le rock, le classique qui se passe bien à la louange, alors que d'autres comme le rap, la techno, peut-être c'est peut-être un peu moins.
Non, c'est juste un style qui correspond mieux à une société ou à une culture. Dans la louange, dans l'église, on a des gens de 7 à 77 ans, pour reprendre un exemple. Donc, on a obligé de trouver un style qui va bien un peu pour tout le monde. Hein? Donc, c'est clair que dès que tu es très spécifique, tu fais que de la techno, du hard rock, de la salsa, ou je sais pas quoi, tu vas plus arriver à rencontrer tout le monde. Mais à partir de là, moi, je crois qu'il peut y avoir de la louange dans tous les styles de musique. Mais encore une fois, quel est le cœur de la personne? C'est vrai que le hard rock, personnellement, je ne sais pas ce que je préfère. J'ai un peu de peine à cause de la dynamisme, de l'énergie, des fois de la violence. Mais je dois dire franchement que je sais et que j'ai entendu des groupes qui étaient de hard rock, qui étaient 100% consacrés à Jésus, qui adoraient Jésus de tout leur cœur et qui ont amené des gens au Seigneur dans leur milieu. Donc voilà, si leur cœur est droit, si leur cœur est pur, c'est possible. À partir de là, faut connaître les gens. Donc ne jugeons pas ceux qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup trop de gens qui ont jugé, qui ont dit oui, celui-là il fait ça, il est comme ça, ils ont juste vu la pochette de l'album. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas juger. Si leur cœur est droit ou pas. Dieu connaît les cœurs. Oui.
Une chose que j'ai remarqué aussi, des fois on a une conception, par exemple, de l'adoration, pendant un temps de louange, je dis ah, l'adoration ça doit être un temps avec des chants calmes, ça doit être tout, on entend presque rien et tout. Et moi je me dis, mais quand tu adores Dieu, tu peux balancer une secouée à la guitare électrique, un bon coup de disto, et tu peux être vraiment dans une adoration très profonde.
Exactement.
Il n'y a pas, pour moi, après on donne un style de comment doit être l'adoration, alors voilà,
mais après,
on commence la louange, il faut que ça. En louange, ça pète un peu, on met les gens un peu dans l'ambiance, puis après, on appuie les deux pieds sur le frein, on baisse toutes les boîtes, et puis voilà, c'est l'adoration. Et puis ça me semble du préfabriqué.
Tout à fait. Maintenant, après, c'est une question de culture d'église, culture de nation, à qui tu t'adresses. Si tu fais un style que dans l'église personne ne connaît, personne ne comprend, personne ne connaît les chants, tu ne vas pas réussir à les rejoindre. Donc il faut rejoindre le peuple pour les années de l'adoration. Mais maintenant, si tu voyages un peu, tu vas avoir des différentes cultures dans différents pays, différentes manières de faire l'adoration. Moi, j'ai déjà vécu des moments de l'adoration où il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de volume, beaucoup de force, beaucoup de dynamique avec la batterie qui tapait très fort. Mais il faut y arriver vraiment, quoi. Tu peux pas le fabriquer, quoi. Si tu y es, ben, tu sais que c'est ça. Et puis, c'est pas que le silence. Mais aussi, des fois, il y a des groupes qui jouent tout le temps à fond. Il faut qu'ils arrivent à apprécier le volume, puis à s'arrêter. Encore une fois, question d'équilibre. Hein. Oui.
Par rapport à ce que dit Thomas, je crois que c'est quand même une logique. Le style musical doit quand même correspondre aux paroles, et doit correspondre. Je sais pas, si tu fais des cieux proclames, tu chantes des cieux proclames version hard rock ou version techno, ça n'a pas vraiment un sens. Ça n'a pas vraiment un sens. Alors que tu prends.
Mais là, c'est des préjugés. Hein. Bon, attention, attention, on ne va pas faire dévier le débat trop loin. Ok. C'est quand même des préjugés. Je comprends très bien. Quand je chantais ce programme, parce que tu le connais, tu ne peux pas l'imaginer autrement. Mais tu peux avoir un chant qui a le même style de parole, qui est un chant avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pêche et beaucoup de rythme, et ce sera de l'adoration profonde. Tu sais, dans le ciel, quand il y a les bruits des grandes eaux, à un moment donné, ils louaient, c'était comme des bruits de tonnerre. Donc il peut avoir du volume. Quand il y a les 120 trompettes qui sonnent, là, dans le temps, quand la gloire de Dieu est descendue, il y avait 120 trompettes qui sonnaient.
Le volume, je suis d'accord.
Ben, il y avait de l'énergie, du volume, de la force.
Le volume, mais le rythme, quelque chose de rythmé, c'est-à-dire que tu veux plutôt faire la joie, la fête, la danse. Quand tu veux faire plus la contemplation, l'adoration, tu vas plutôt être dans le calme.
Ça, c'est des préjugés culturels que nous avons. Mais c'est possible d'avoir beaucoup de rythme aussi. Mais c'est plus difficile, mais c'est possible. Oui.
Bon, moi, je voulais juste revenir carrément en arrière. Vincent, voilà, pour Vincent avait posé une question, et la question était de savoir. Il y en a, étant dans le monde, étaient des musiciens, ils faisaient tout. Après, ils se convertissent. Faut-il jouer uniquement dans l'église ou bien de temps en temps, il faut continuer dans les bars et autres? Bon, moi, je voulais tout simplement dire que je connaissais un grand musicien, c'est un Nigérian, Sony Okosun. Et avant sa conversion, nous l'avions tous écouté. C'était un grand chanteur africain. Alors, après... Il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur, il a décidé de rompre avec les chants de bar. Donc il ne chante que pour l'église, dans les grandes croisades d'évangélisation, etc. Et lorsqu'il chante, il y en a qui se convertissent, et d'autres, étant sous le poids de la maladie ou des esprits, il y en a qui sont délivrés comme ça. Alors pour moi, je vois un peu passable, sinon même mal, un musicien chrétien, repartir chanter dans les bars parce que non, avant d'être chrétien, c'est ce qu'il exerçait pour gagner sa vie. Et ça, bon, ça c'est un point de vue personnel. Ce n'est pas très bien. On n'a pas besoin de copier le monde. La deuxième question, et Christian demandait si c'était aussi normal que le chrétien écoute les cassettes païennes. Et j'ai aimé votre réponse, mais moi, je serais tout à fait radical en disant que et écouter la musique païenne là, ce n'est pas très bien. Lorsque je prends un chrétien né de nouveau qui compose les chants, alors il va devant le Seigneur, le Saint-Esprit l'inspire et en chantant, il touche les cœurs des gens. Ces païens qui ne connaissent pas Dieu également et ayant créé des cassettes sont allés auprès peut-être des esprits, de certains esprits aussi. Et ils ont fait des incantations. C'est très difficile, en tout cas, de vouloir écouter ces cassettes et dire que tu n'es pas influencé sur le plan spirituel. C'est faux. C'est faux. Normalement, on devait, en tant que chrétien né de nouveau, faire la différence. Sinon, c'est la chair toujours.
Là, je comprends très bien ce discours. Là, on arrive dans les grandes discussions aussi culturelles entre l'Afrique et l'Europe. Il y a des grosses différences. Mais c'est clair qu'une musique ouvertement païenne qui met en avant des choses de ce monde, moi ça m'intéresse pas, ça m'attire pas du tout. Mais voilà, il faut s'y respecter, on n'est pas tous le même approche de cela. Et puis, voilà. Mais je vous encourage en tout cas à louer Jésus, à adorer Jésus, à prendre une musique qui vous édifie.
Voilà.
Regardez le fruit de la musique que vous écoutez.
Amen.
Qu'est-ce que ça vous produit? Parce que vous écoutez cette musique parce que vous êtes mal, que vous avez besoin d'être mieux. Donc ce n'est pas un bon fruit, c'est Jésus qui doit vous rendre mieux, ce n'est pas la musique. Hein? Si ça vous déprime, si ça vous décourage, ce n'est pas bon non plus. Si ça vous empêche de dormir, peu importe ce que ça produit, regardez ce que ça produit cette musique. Moi je cherche une musique qui m'édifie, qui m'emballe, qui m'encourage, qui me donne envie de me réjouir, de louer Dieu, de servir Dieu. Donc c'est mon choix, il est assez vite fait avec ça. Hein? Voilà. Alors, par rapport au style de musique, on a peut-être aussi le genre de louange. Hein. Quand on parle du genre de louange, on peut avoir différentes approches. Mais les gens définissent une louange. Ah, moi j'aime la louange. Pour prendre l'exemple, si vous pensez à la louange j'aime, il y en a qui disent, moi j'aime pas la louange j'aime. Moi je veux la louange hymne, moi je veux la louange hymne, moi je veux la louange cantique, moi je veux la louange réformée, moi je veux la louange chic. Mais je crois que là aussi, il faut qu'on dépasse ça. Tu vois, il faut pour réussir à trouver des bonnes choses dans tous ces styles. Parce qu'il y a différents styles. Je pense qu'une des forces que nous avons développées avec les sonisseurs et que les gens pensent, disent c'est la louange j'aime, en fait, c'est pas la louange j'aime, c'est une louange qu'on prend partout. J'aime à part une louange particulière. On prend la louange chez les catholiques, chez les réformés, chez les charismatiques, chez les évangéliques, chez les, tout ce que vous voulez. Donc c'est un rassemblement de différents styles, différentes sensibilités qu'on met ensemble. Et c'est ça qui apporte une manière. Après, ensuite, à nous de voir comment on va l'interpréter. Dans certaines églises, c'est vrai qu'on va chanter que les chants calmes parce qu'on aime le calme. Dans d'autres églises, il faut qu'il y ait de la pêche, il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut que ça bouge, on veut que les chants qui bougent. Et je pense que l'équilibre, encore une fois, c'est d'avoir les deux. Il y a des moments où Dieu nous demande de bouger, de sortir, de lever, de crier, de taper dans les mains. Et d'autres chants, on doit s'arrêter, se calmer, adorer. Et pour ça, il faut des chants différents pour exprimer ces choses différentes. Tu as une question? Il n'y a pas de 666, malheureusement. Oui, c'est une erreur, c'est pas grave. Simplement, voilà. Les gens. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont tellement bien intentionnés qui, avant même que le 666 sorte, disent, ont écrit des courriers à Jem en disant : je me demande quel chanteur aura l'honneur, le privilège d'avoir le chant 666, j'aimerais pas être à sa place. Ça pourrait éviter les polémiques, on l'a pas mis, et puis on aurait mieux fait le mettre parce que maintenant il y a des polémiques, pourquoi vous l'avez pas mis ? Donc, de toute façon, je dans l'autre, il y aura des critiques et des idées.
Sur le 777, il y a une jolie image d'avis.
Hasard pur. Je vais composer un chant 666 où je vais mettre sans parler mort qui vaincront les vivants et Jésus est vainqueur. Et puis voilà. Et puis allons la superstition de Jésus. Voilà. Voilà. Mais c'est un détail, il ne faut pas se focaliser sur des détails comme ça, quoi. N'est-ce pas? Exactement, c'est pas essentiel pour la vie chrétienne. Donc, le genre de louange peut évoluer, ne nous limitons pas à un style. Ne dites pas que notre style, c'est celui de Dieu. Je crois que c'est là toujours le danger. Disons, le genre qu'on fait dans notre église, c'est le genre de Dieu. C'est bien parce que vous avez reçu un style, vous avez trouvé quelque chose qui correspond au genre qui est dans cette église. Mais si vous changez d'église, de pays, de continent, vous allez voir un autre style. Ouais, est-ce que vous pensez que c'est aussi de la louange ou pas? Je peux vous dire que vous allez peut-être être surpris. Moi, avec 20 ans où je voyage pour le royaume de Dieu, j'ai vu toutes sortes de styles qui m'ont surpris. Mais j'ai vu aussi des cœurs qui louaient vraiment Dieu, avec des styles complètement différents. Du classique à la techno, ouais. En passant par tous les styles que vous avez envieux. Mais tu sens très bien le cœur qui est là derrière. Tu sens très bien les gens qui font juste l'animation ou les gens qui adorent. Le rythme va changer, mais l'adoration elle peut être là dans tous ses styles. Simplement, le style, c'est une manière de communiquer en église, de se rassembler. Voilà, si tu habites dans l'Argentine, puis tu fais la louange salsa, rumba, cumbia, c'est normal. Ça fait partie de leur culture. Et tout le monde bouge, tout le monde danse, et les non-chrétiens sont attirés, ils chantent. Mais pour nous qui débarquons, qui arrivons pas à bouger avec ce rythme, comprenons pas les... On est mal à l'aise. Donc, on trouve ça marrant, on n'arrive pas à rentrer dedans. Mais pour eux, c'est normal. Mais de la même manière que certains Africains qui viennent en Europe, qui vont dans une église réformée, qui voient tout le monde qui chante comme ça, bien carré, ils vont être très mal à l'aise. Ils vont se trouver ça bizarre, étonnant. Et pourtant, il y a des gens très sincères qui adorent vraiment Jésus de tout leur cœur avec des chants comme ça. Donc, il faut trouver et aller au-delà du genre et pas laisser le genre être un obstacle. Dire ça, c'est pas Dieu, c'est Dieu. Laissez découvrir richesse, la panoplie, les capacités des gens. Et puis ensuite, il faut trouver le genre qui s'adapte à la personne. Si vous avez un ministère comme l'église ICF à Zurich, ils ont un style très particulier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un public particulier. Ils ont décidé de toucher les 25-35 ans. Le pasteur, il est très conscient. Il a dit, voilà, j'ai fait pour toutes les églises à Zurich, il y a plein de chrétiens, mais il n'y a personne entre 25 et 35 ans. Pourquoi ils ne viennent pas à l'église? Parce que l'église ne correspond pas à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Donc je vais faire une église qui s'adapte à eux et je vais faire une musique. Qu'est-ce qu'ils écoutent les 25-35 ans? Ils écoutent cette musique, je vais faire cette musique pour eux. Et ils touchent des gens, mais maintenant c'est la plus grosse église de Suisse, ils sont 3000 en 10 ans. Parce qu'il a un but, une vision, un objectif, un genre et ça correspond. Mais tu vas faire la musique dans l'église d'à côté, les gens partent en courant. Mais ils partent en courant, les mêmes chrétiens qui sont de la rue d'à côté. Parce qu'ils ne supporteront pas ce style et ce genre. Mais ne méprisons pas, ne critiquons pas ceux qui le font de cette manière. Oui?
Alors,
là, par rapport à ce que tu dis, il ne faut pas poser un jugement ou quoi que ce soit, mais est-ce que l'Église, c'est une tranche d'âge de 10 ans?
Non.
Pas du tout. Mais l'Église, c'est toutes les églises. C'est le corps de Christ. Lui touche un créneau. Pourquoi on fait des groupes d'école du dimanche, puis on touche un groupe, on met les 8-10 ensemble? On ne devrait pas les laisser tout seuls, on devrait les laisser avec nous. Donc on choisit. Pourquoi il y a des réunions pour les personnes du troisième âge le mercredi après-midi où ils écoutent l'évangile? Pourquoi il y a des moments séparés, il y a des moments où on est ensemble. Si tu considères le corps de Christ, il n'y a pas de problème. Si tu exclus les autres, c'est là où il y a un problème. Ce pasteur n'exclut pas les autres. Il touche les gens que Dieu lui a appelé à toucher. Pour ça, travaille avec d'autres églises, avec d'autres ministères, collabore, chacun à sa place.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.